Bonsoir.
By all means necessary, quels qu'en soient les moyens, quel que soit ce que ça coûte, nous obtiendrons la libération et la justice. C'est sans doute la phrase la plus connue de Malcolm X et celle qui est la plus emblématique de sa pensée et en même temps du mystère qu'il représente. Quels qu'en soient les moyens, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par là. C'est une phrase assez elliptique, assez mystérieuse. En payer le prix de la liberté, mais on a toujours voulu savoir ce qu'il voulait dire par là. L'insurrection violente, la résistance, l'exil, la séparation. Et les historiens se sont beaucoup interrogés sur le sens à donner de cette phrase, quels qu'en soient les moyens. Et parce que justement cette phrase est assez mystérieuse, il me semble qu'elle était pertinente pour ouvrir cette réflexion ce soir sur Malcolm X. Lui qui, comme tous les personnages devenus iconiques, devenus des visages inscrits sur des t-shirts ou des casquettes, a perdu un petit peu de sa substance, il me semblait qu'il était intéressant ce soir d'essayer de retrouver, derrière le mystère et derrière l'évolution, la personnalité et la parole de Malcolm X. Je me propose de le faire ce soir en suivant trois étapes, ce que j'appellerais peut-être les trois âges de Malcolm X. Chacun de ces âges étant représenté par l'une des illustrations que vous avez derrière moi. Le premier, c'est l'âge de l'initiation. Le deuxième, je l'appelle l'âge de la prédication. Et le dernier, enfin, l'âge de la libération. Et je voudrais vous expliquer pourquoi, selon moi, chacune de ces étapes a été formatrice et donne une idée, peut-être, de qui était Malcolm X et de l'évolution de sa pensée. Et pour ce faire, je me propose également, même si je vais donner un certain nombre d'analyses et essayer de vous donner des éléments de compréhension, de lire le plus possible des extraits de textes et de discours de Malcolm X pour que l'on comprenne vraiment quelle était sa voix et ce qu'il disait. Je peux commencer par des éléments biographiques assez connus, mais qui sont néanmoins utiles pour comprendre celui qu'il est devenu. Il est né en 1925 à Omaha, dans le Nebraska. C'est un petit peu une zone de nulle part, Omaha, Nebraska, dans l'histoire noire américaine. On ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Ce qu'on sait, c'est qu'il est fils d'un pasteur qui est aussi très engagé en politique. Son père est le membre de l'UNIEA, qui est l'organisation panafricaine qui a été fondée entre les deux guerres par un personnage extrêmement important dans la vie de Malcolm X et de bien des Noirs du Nord à l'époque, qui s'appelle Marcus Garvey. Garvey, c'était un immigré jamaïcain venu à New York entre les deux guerres avec un message absolument radical qui a emporté le cœur des Noirs de New York, qui était de dire que le Noir américain n'était pas un Américain, qu'il était un Africain. Un Africain qui avait été déplacé, arraché à sa terre, et que par conséquent, il n'avait aucun destin sur la terre d'Amérique, que sa place était en Afrique. Marcus Garvey, qui se rêvait un petit peu comme le Haïlé Sélassié de la partie nord de Manhattan, était une espèce de personnage fantasque tenant à la fois de l'empereur, du prédicateur, du gourou et en même temps de l'intellectuel. Il a fondé une compagnie maritime pour rapatrier les Noirs en Afrique. Il donnait des meetings qui rassemblaient des dizaines de milliers de Noirs à New York. Et il avait cette idée que la race noire devait être fière, que la race noire était belle et que la race noire n'avait rien à envier à cet Amérique indigne. Et ce discours extrêmement radical et extrêmement puissant a fait des émules aux quatre coins du nord des États-Unis, même si harcelé par le FBI, emmêlé dans des histoires de scandales financiers, il a finalement été condamné, Marcus Garvey, rapatrié en Jamaïque, sans jamais avoir réalisé son rêve de mourir sur les terres d'Afrique. Néanmoins, Le père de Malcolm X, comme l'essentiel de la famille de Malcolm X, prêche cette parole-là, qui est une parole militante extrêmement forte et qui va à la famille de Malcolm X et au père en particulier, les représailles des blancs du voisinage qui brûlent sa maison, qui l'intimident, qui menacent de plastiquer les différents logements dans lesquels la famille retrouve refuge, si bien que la famille quitte Omaha pour s'installer à Détroit. Les choses ne s'arrangent pas tellement puisque le père est finalement assassiné dans des circonstances mystérieuses, on ne sait pas très bien, toujours est-il qu'il ait retrouvé le corps cisaillé en deux sur les voies de tramway de Détroit. Et certains disent qu'une milice d'extrême droite, les légionnaires noirs, une sorte de clan de Détroit, aurait assassiné le père de 8 enfants. Malcolm et ses frères et sœurs s'appellent alors Little, c'est la famille Little, qui se retrouve privée du père. Malcolm a alors 6 ans et avec ses 7 frères et sœurs, il se retrouve seul puisque la mère, bouleversée par ce qui s'est passé et elle-même fragile, est placée en institution psychiatrique. Elle est incapable de s'occuper des enfants et donc Malcolm commence avec ses frères et sœurs une sorte de vie d'errance. Et il trouve refuge chez l'une de ses demi-sœurs qui habite Boston et commence pour le jeune Malcolm Little une vie de petit gosse perdu, ballotté de droite et de gauche, mais qui a cette espèce de caractère déjà et de détermination très unique qui se heurte au mur du racisme, si tant est qu'il l'ignorait jusque-là, lorsque au lycée, il a un échange qui le marquera profondément. Alors, il faut savoir que ce que l'on sait de Malcolm X, pour l'essentiel, on le tient de son autobiographie qui est parue 9 mois après sa mort. Or, vous savez quel est le problème avec les autobiographies, c'est que, d'une part, celle-ci, comme celle de bien d'autres militants noirs, n'a pas été écrite de sa main, mais par l'intermédiaire d'Alex Haley, un journaliste, et que, par ailleurs, lorsque l'on écrit son autobiographie, on écrit son récit, on écrit sa légende et que par conséquent on présente les faits tels que, avec du recul, on a envie que ce soit retenu. Mais en tout cas, Malcolm, dans son autobiographie, raconte cette scène lorsqu'il est au lycée et que, parce qu'il a été déplacé à Boston, il est dans un quartier où il y a principalement des enfants blancs, il est déjà dans une position un petit peu particulière, un petit peu délicate, comme le sont les gens de couleur lorsqu'ils sont en minorité au milieu d'un univers où les blancs sont la norme. Et donc, il est à la fois la mascotte des enfants blancs et en même temps, comme toutes les mascottes, il est un petit peu chosifié, comme disait Césaire, c'est-à-dire qu'il est un peu la chose étrange, hein, l'espèce d'individu comme ça que l'on regarde comme une créature. Et pourtant, il veut faire aussi bien que les autres enfants. Et lorsque l'un de ses professeurs d'anglais, professeur Ostrowski, lui demande à lui comme aux autres ce qu'il veut faire plus tard, il répond qu'il voudrait devenir avocat. Et selon Malcolm X, le professeur lui aurait répondu « Mais enfin, Malcolm, sois réaliste, tu sais bien que tu es un nègre. » Et de ce jour, il aurait conçu une espèce d'amertume et il écrit à ce moment-là dans son autobiographie « J'étais aussi intelligent et peut-être plus intelligent que tous les autres enfants blancs et pourtant, jamais je ne le serais suffisamment pour devenir ce que je souhaitais être. » Donc il faut savoir que dans la littérature noire américaine, ce moment de la première confrontation avec le raciste blanc est un motif, c'est un lieu commun, c'est un passage obligé de ce genre littéraire qui est les mémoires des écrivains et des penseurs noirs américains, mais néanmoins c'est fondateur. C'est fondateur pourquoi ? Parce que ce qui est en jeu là, c'est la question de l'éducation. C'est la question du diplôme. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir que les dernières lignes de l'autobiographie de Malcolm X se terminent sur la question de l'éducation et du fait que peut-être son grand regret aura été de ne pas avoir assez de diplômes, de savoir, et de ne pas avoir été suffisamment loin dans l'acquisition de la connaissance. Mais gardez en mémoire cet épisode du professeur qui le brime, qui essaye de faire périr en lui le désir de la réussite intellectuelle, parce que c'est un point qui sera tout à fait matriciel dans le reste de sa vie. Avec une enfance pareille, il grandit évidemment comme une herbe folle entre trois villes, Boston, Détroit, où il commence à faire les 400 coups, et puis Harlem, qui est à l'époque la grande mecque de la vie culturelle des Noirs américains, où de nombreux émigrés du Sud sont venus pour réussir artistiquement, intellectuellement et mener un peu la belle vie. Et c'est un petit peu ce que fait Malcolm Little. Il est dans cette espèce d'état de petite délinquance. On l'appelle Malcolm le Rouge quand il est à Détroit. Il se fait des copains dans une espèce de milieu un peu interlope où la délinquance tient lieu de source de revenus. Et il est comme ça, entre Détroit et Harlem, à découvrir quelque chose qui est une espèce de vie de plaisir, de licence, d'être sur la brèche, d'être en permanence aux marges de la légalité et par conséquent aux marges de la société. Et c'est un point qui me semble très intéressant dans tous les livres sur Malcolm X, et y compris sur sa propre autobiographie. Cette période-là, qui précède son incarcération, est souvent on passe très vite dessus, comme si finalement c'était pas une période très intéressante parce qu'il était délinquant. Lui-même, évidemment, dans son autobiographie, présente cette période comme une période de perdition pour lui, où il ne savait pas qui il était, où il devenait délinquant. Moi, je propose une autre thèse, qui est le fait de dire qu'en réalité, ce sont des années qui sont fondamentales, ces années de délinquance, où il est à la fois cocaïnomane, proxénète, un peu dealer, où il vole, et où il est dans cette espèce de monde de la semi-délinquance où, finalement, la criminalité est une forme de résistance. Il porte à l'époque ce qu'on appelle le zoot suit, le costume zoot, qui est une espèce de costume dandy que portent les Noirs à l'époque dans les villes, avec un chapeau au côté, ce qu'on appellerait un sapeur aujourd'hui, vous savez, dans la tradition congolaise, un petit peu trop habillé, et en même temps avec cette espèce de crânerie, cette espèce de posture qui consiste à dire « je suis là et j'existe ». Et cette attitude consistant à être le dandy rebelle, le dandy un peu gangster, un peu mauvais garçon, c'est quelque chose qui, dans l'histoire culturelle noire américaine, jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ça dans le hip-hop par exemple, est quelque chose qui a un message politique fondamental, qui consiste à être une forme de revendication d'une vie de lumpen prolétariat, qui refuse les conventions bourgeoises, qui refuse l'ordre de la société blanche, et qui observe depuis les bas-fonds le monde tel qu'il va. Et depuis ce monde des bas-fonds dans lequel il évolue, Malcolm Little voit plusieurs choses fondamentales. Nous sommes entre les deux guerres et puis ensuite dans les années 40, et ce qu'il voit, c'est Harlem, ce qu'il voit, c'est le Nord, à une époque où le Nord des États-Unis connaît, en tout cas en ce qui concerne les Noirs américains, l'une de ses révolutions les plus importantes. En 1920, 80% des Noirs américains vivent au Sud. En 1970, 80% des Noirs américains vivent au Nord, dans les villes. Pendant ces quelques années, il se passe cette chose extraordinaire qui est la grande migration des Noirs américains qui quittent la campagne du Sud arriéré, qui quittent tous ces états du vieux Sud cotonnier où ils sont maintenus sous le joug d'une ségrégation officielle qui fait d'eux des victimes quotidiennes, pour aller vers les grandes villes du Nord à la faveur d'une industrialisation qui leur promet un emploi dans l'industrie et surtout la liberté. D'une certaine façon, ces millions de Noirs qui quittent la campagne pour devenir des urbains, ils sont, si on y réfléchit bien, des réfugiés politiques. Ce qu'ils fuient, c'est le Ku Klux Klan, c'est la ségrégation, c'est la violence quotidienne, et ils se disent qu'en arrivant à Détroit, New York, Boston, Baltimore, c'est une nouvelle vie qui s'offre à eux. On leur a toujours dit, le racisme, c'est au Sud, la discrimination, c'est au Sud, la ségrégation, c'est au Sud, au Nord, ça n'existe pas. Au Nord, c'est le pays de la déclaration d'indépendance et de la Constitution américaine respectée. Et donc, cette mentalité très particulière des Noirs du Nord des États-Unis, c'est celle de gens qui sont des déracinés, des émigrés, des réfugiés, mais aussi des gens qui sont profondément amers, parce que ce qu'ils trouvent lorsqu'ils arrivent dans ces grandes villes du Nord, ce n'est pas l'Eldorado de liberté qu'ils ont espéré. Certes, ils ne sont pas obligés de monter à l'arrière des bus. Certes, ils ne sont pas obligés d'aller dans les taxis, les cinémas ou les restaurants pour les Noirs. Certes, il n'y a pas des milices de gens habillés de drap blanc qui font brûler des croix la nuit et qui viennent les assassiner dans leur maison. Mais c'est une forme de violence raciale peut-être beaucoup plus insidieuse qu'ils constatent. Ils constatent le ghetto. Ils constatent qu'on a organisé leur ségrégation, peut-être pas officiellement, mais tout aussi efficacement, au niveau micro-géographique, c'est-à-dire dans l'espace urbain dans lequel ils sont condamnés à vivre. Le ghetto, c'est cet endroit où, dans les centres-villes, on interdit aux Noirs de pouvoir, dont on les interdit de sortir. C'est-à-dire que les emplois, l'accès aux institutions publiques comme l'école, les cliniques, la poste, des transports publics décents, sont faits de telle sorte que les Blancs vivent entre eux dans des banlieues très bien aménagées et très bien équipées, et eux sont maintenus à l'intérieur. Et je vous conseille un film absolument remarquable avec Sidney Poitier, A Raisin in the Sun, qui raconte la difficulté d'un Noir de Chicago qui voudrait lui aussi quitter le ghetto et son appartement délabré pour avoir sa petite maison en banlieue. Mais dans les banlieues blanches, il n'y a pas de place pour les Noirs qui veulent entrer. Et donc la psychologie du Noir au nord des États-Unis, elle est très différente. C'est celle de gens qui sont amers et qui sont déçus. Et pour certains qui acceptent de pouvoir s'exprimer au prix d'une certaine forme de compromission avec les Blancs. Et c'est aussi ce que voit Malcolm Little. Il voit aussi dans ce Harlem qui a connu ce qu'on a appelé une renaissance culturelle, la Harlem Renaissance, tous ces artistes noirs qui certes expriment toute la beauté, les splendeurs de la culture noire, mais ce sont les Blancs qui achètent. Et tout ça, Malcolm Little, tout en étant délinquant, proxénète, en ayant plein de petites amies blanches, en étant dans cet état de semi-délinquance, il le voit et il le comprend. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est une période fondamentale, une période d'éducation et d'initiation. Parce que ce qu'il voit, c'est une forme d'aliénation nouvelle, différente de celle que connaissent les Noirs du Sud. Et à cette époque-là, on le sait, les Noirs du Sud se révoltent. Ils commencent à se réveiller, à s'organiser. Ils se sont réveillés depuis longtemps, mais à partir des années 50, le mouvement des droits civiques va commencer à prendre une phase nouvelle. Simplement, cette vie sur la brèche, cette vie toujours à la marge, entraîne Malcolm Little vers ce qu'il attendait, c'est-à-dire d'être arrêté pour cambriolage et puis d'être condamné. Il est condamné entre 8 et 10 ans de prison dans un pénitencier en banlieue de Boston, de 1946 à 1952. Et en arrivant en prison, il y a là quelque chose de très particulier qui se passe pour lui et qui pourtant a souvent été méconnu. On dit souvent qu'il est arrivé en prison et il s'est converti à l'islam. C'est très rapide et c'est très inexact. Les choses sont plus compliquées. Lorsqu'il arrive en prison, il continue à se droguer. Alors, de façon intéressante, comme il n'a plus accès à la cocaïne, il se drogue avec de la noix de muscade, jusqu'à ce que je m'intéresse à la vie de Malcolm X. Je ne savais pas qu'on pouvait se droguer avec de la noix de muscade, donc je vous informe de cette chose que j'ai découverte. À partir de 7 à 8 petites cuillères de noix de muscade par jour, on peut avoir des effets hallucinogènes, et si on double ou triple la dose, ça peut être du type champignon. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, la noix de muscade. En tout cas, c'est bio, voilà. Malcolm Little continue donc à être dans une forme de quête, et il fait une rencontre très importante. Comme beaucoup de prisonniers, il cherche à s'occuper, et donc la première chose qu'il fait pour essayer de travailler, c'est qu'il s'inscrit à la fonderie de la prison pour pouvoir travailler un petit peu. Il rencontre un homme, le premier noir qu'il rencontre dans cette prison, parce qu'on est toujours dans le Massachusetts, donc y compris dans les prisons, il y a quand même beaucoup de blancs. Et donc il rencontre un homme noir, plus âgé que lui, qu'il appelle Bimby, qui s'appelle John Bembry, et qui est une forme d'intellectuel autodidacte. Un homme qui lui apprend qu'il y a quelque chose à découvrir dans les livres, et qui lui donne le goût de la lecture et le savoir, et qui lui dit « Malcolm, première chose à faire pour toi ». Il faut que tu te calmes, essaye de comprendre ce qu'il y a dans les livres, tu vas trouver une forme de vérité. Alors on peut comprendre que le jeune garçon qui est orphelin de père depuis l'âge de 6 ans trouve dans cette figure paternelle de quoi l'apaiser. Et donc il commence à aller s'inscrire à la bibliothèque et à lire. et il s'oriente tout naturellement vers le patrimoine culturel des Noirs américains. Il redécouvre Garvey, mais il redécouvre aussi les mémoires d'esclaves, il redécouvre tous les grands penseurs, y compris africains, et c'est là que quelque chose se produit. Et la conversion de Malcolm X, d'ailleurs, dans son livre, il parle de conversion psychique à ce moment-là. Ça n'est pas une conversion religieuse. Pour l'instant, il n'est pas question d'islam. C'est une conversion psychique. C'est le fait d'avoir redécouvert par la lecture et par les livres l'émancipation et la libération qui lui manquaient. Et c'est là qu'il a le sentiment de se libérer. C'est en acquérant le savoir qu'il se rend compte que la culture blanche dominante lui a fait croire à lui et à ses millions de frères et sœurs que l'Afrique était un continent attardé, arriéré, où il n'y avait pas de culture. On lui a fait croire que les Noirs dans son genre n'étaient pas faits pour devenir avocats, mais peut-être plutôt plombiers ou cireurs de chaussures. Il se rend compte que tout ça est un mensonge et qu'il y a des merveilles de littérature et que la culture et que même l'être humain, enfin l'être qui se tient debout sur ses deux jambes, vient d'Afrique. Et cette libération-là, elle est matricielle. Et alors qu'il était à l'isolement, il se met à recevoir de plus en plus les visites de ses frères et sœurs. Et c'est un de ses frères qui lui envoie une lettre un jour, son frère Philbert, et qui lui dit je viens de me convertir. Je viens de me convertir dans cette secte musulmane qui s'appelle la Nation of Islam, parce que leur enseignement est unique. Leur enseignement, c'est quelque chose qui m'a remis sur le droit chemin. Et tu sais, Malcolm, tu devrais faire pareil. Tu devrais suivre leur enseignement. Quelque temps après, c'est sa sœur qui lui rend visite et qui lui dit qu'elle aussi, comme trois autres de ses frères, s'est convertie à la Nation of Islam. Donc ce n'est pas en prison qu'il découvre l'islam. Ce sont ses frères et sœurs qui lui rendent en visite, lui disent qu'eux, à l'extérieur, se sont convertis. Au début, il est très sceptique. Et puis, finalement, parce qu'il est en quête d'un corpus culturel, de quelque chose qui le structure mentalement, il commence à s'intéresser à cette secte. Il arrête de fumer, il arrête de manger du porc. Et il comprend, parce que c'est là-dessus que son frère Philbert insiste le plus, que ce qui lui manque, c'est la discipline. Or, ce qu'apporte la Nation of Islam, au-delà d'une théologie très intéressante pour lui, c'est l'idée qu'il faut se discipliner, qu'il fallait refuser les tentations, qu'il fallait obéir à un certain ordre dogmatique. Et donc, alors qu'il est encore en prison, il s'intéresse à cette Nation of Islam. C'est une chose très étrange que cette Nation of Islam, elle a été fondée vers 1930, par un certain Wallace Ford, dont on sait assez peu de choses et qui est d'ailleurs mort dans des circonstances mystérieuses à Détroit. Avant de mourir, il a eu le temps de former son successeur, un employé domestique qui s'appelle Elijah Poole, qui se convertit et qui devient Elijah Muhammad, noir américain, qui commence à faire une petite association et puis à donner de la puissance et de l'audience à ce qui s'appelle en réalité, pas seulement Nation of Islam, mais dans le titre initial, The Lost and Found Tribe of the Nation of Islam in the Wilderness of America. Ce qui est un terme très compliqué pour dire, en somme, que les tribus musulmanes sont là pour apporter la rédemption dans cette sauvagerie américaine. C'est donc quelque chose de très endémique à l'Amérique. Ça n'a rien à voir ni avec les branches sunnites ou chiites de l'islam radical. Il n'y a pas de lien entre les principales écoles musulmanes telles qu'elles ont été constituées dans le monde et cette secte très particulière, un petit peu créée ex nihilo. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une grande tradition musulmane aux États-Unis, puisque, y compris parmi les premiers esclaves arrachés à la terre d'Afrique, il y avait bien sûr des musulmans, et puis il y a eu ensuite des panafricains au XIXe siècle qui ont défendu l'idée d'une conversion à l'islam. Mais là, pour la première fois, il y a une théologie tout à fait particulière. La théologie est la suivante. Selon Elijah Muhammad, un jour, un savant noir du nom de Yacoub a, à force de manipulation, a créé une sorte de créature Frankenstein, sauf que ce n'est pas une créature, il a créé les races, les différentes races, et un jour il a créé une race particulièrement maléfique qui est la race blanche, les démons aux yeux bleus. Il a créé cette race, et cette race, par une forme de déviation de l'évolution théologique, a pris le dessus et a cherché à exterminer toutes les autres. Et lorsque Allah reviendra, il exterminera la race blanche, et les Noirs pourront reprendre leur pouvoir. Je vais vous lire un extrait de ce que dit Elijah Muhammad, de ce qu'est cette histoire qui est la véritable théologie des Noirs. Voilà environ 6000 ans, Yacoub créa la race blanche à partir de la race jaune. Mais cette race nouvelle était complètement différente des autres. D'une part parce qu'elle ne contenait aucun ingrédient noir, et d'autre part parce qu'elle n'était pas musulmane par nature. Les blancs appartiennent à la race des diables. Ils étaient sauvages, sans honte, marchaient à quatre pattes et vivaient dans les arbres. Au bout de 2000 ans, Allah chargea Moïse de civiliser cette race blanche pour que, conformément au dessein de M. Yacoub, elle puisse dominer le monde. Moïse leur enseigna de ne pas manger de viande le vendredi, mais du poisson, coutume que beaucoup de blancs conservent encore aujourd'hui. Mais Moïse lui-même trouva sa tâche horriblement difficile. La race blanche créée par M. Yacoub devait néanmoins dominer le monde pendant 6000 ans jusqu'à présent. À ce moment-là, la race originelle, la nation noire, doit donner naissance à un être dont la sagesse, la connaissance et les pouvoirs seraient infinis. Ce dieu de grandeur et de majesté, qui apparut sous les traits de Wallace Ford, détruirait dans la totalité le monde de M. Yacoub et remettrait le peuple noir à sa légitime place pour gouverner l'univers. Ce qu'on voit donc dans cette théologie tout à fait baroque de la Nation of Islam, c'est l'idée que la civilisation noire a été la civilisation fondatrice, la civilisation première, et qu'elle a été privée de sa domination par des blancs qui, un jour viendra, seront remis à leur place. Et il y a l'idée d'une reconquête. Et on trouve là immédiatement des échos avec ce que je vous disais tout à l'heure du garveillisme. Le garveillisme qui essaye de retourner l'idée de la hiérarchie pour dire que finalement, la civilisation supérieure, c'est la civilisation noire, c'est la civilisation des afro-descendants, et que les blancs, en réalité, sont des usurpateurs. Et on retrouve ça dans la Nation of Islam. Malcolm se convertit cette fois, une fois qu'il est en prison, il abandonne son nom de Malcolm Little pour choisir le nom de X, X, l'inconnu en mathématiques, et en même temps le nom qui est une croix, celle que peut-être les esclaves qui étaient analphabètes signaient lorsqu'on leur demandait de faire acte de présence sur un registre. Et surtout, c'est une façon de dire que le nom que portent les Noirs américains sont les noms que les propriétaires d'esclaves leur ont donnés, que c'est une aliénation et que par conséquent, ils refusent désormais ce nom. Choisir son propre nom, c'est déjà se réinventer et choisir son destin. Il y aura deux changements de nom dans la vie de Malcolm X. Le premier, c'est celui-ci, c'est lorsqu'il abandonne le nom de Malcolm Little pour devenir Malcolm X. Et le deuxième, je vous en parlerai tout à l'heure, mais ce sont des points très importants. Depuis sa prison, il écrit à Elijah Muhammad, qui lui répond et qui lui propose qu'il se rencontre à la sortie de prison. Lorsque Malcolm sort de prison, il a 27 ans, et il rencontre Elijah Muhammad à Détroit. Les deux hommes se comprennent, l'intelligence de Malcolm est évidente, sa foi profonde, peut-être pas tant dans la théologie que dans l'idée qu'un nationalisme noir teinté d'une théologie tout à fait particulière était la solution. Il sent la colère et la rage chez ce jeune homme et très rapidement il en fait son adjoint. Plus encore, Malcolm X est désormais quelqu'un de brillant, qui devient un prosélyte absolument unique, si bien qu'après l'avoir nommé assistant de la Nation of Islam, de lui avoir confié une mosquée, qu'on appelle de temps en temps mosquée, de temps en temps temple, dans la Nation of Islam à Détroit, il le nomme à la tête de la plus grande mosquée de la Nation of Islam, qui est celle évidemment de Harlem, la mosquée numéro 7. Qui est d'une certaine façon l'emblème de la Nation of Islam. À partir de 1954-1955, Malcolm X entame une carrière tout à fait stupéfiante, et c'est le deuxième âge, ça correspond à la deuxième illustration que vous avez derrière moi, une carrière exceptionnelle de prédicateur. C'est quelqu'un qui a un don pour la parole et pour la rhétorique comme on en a rarement vu jusque-là, peut-être depuis Garvey, mais avec quelque chose de plus. Il est très grand, il a une prestance et un charisme absolument unique, et il arrive à rassembler, à chaque fois qu'il s'exprime dans les rues de Harlem, mais aussi à Détroit, des milliers de jeunes noirs qui viennent l'écouter porter un message, qui est un message qui mérite qu'on s'y arrête, parce que toute la pensée de la Nation of Islam et de Malcolm X, et c'est peut-être justement là qu'il y a un point de distinction à établir, peut se discerner. Dans la plupart de ses discours, Malcolm X commence par, comme le dit l'honorable Elijah Muhammad, pour citer l'honorable Elijah Muhammad. C'est-à-dire que si Malcolm X est un soumis, au sens étymologique de musulman, il est très soumis à la parole d'Elijah Muhammad. Il est vraiment un fidèle disciple extrêmement zélé. Ça n'est pas du tout quelqu'un qui pousse en avant sa carrière et qui veut parler au nom de Malcolm X. Néanmoins, derrière les principes essentiels de la Nation of Islam, on devine la touche apportée par Malcolm X, et ce sont des pensées tout à fait intéressantes, parce que ils offrent une alternative à ce qu'était jusque-là le discours politique des Noirs. À partir de 1955, vous savez peut-être que les Noirs du Sud des États-Unis, ceux qui vivent, eux, sous Jim Crow et sous la ségrégation officielle, ont commencé une révolution non violente derrière Martin Luther King, et qu'on appelle cette révolution celle des droits civiques. C'est-à-dire que ce que demandent les Noirs du Sud par la non-violence, c'est d'être des citoyens à part entière. C'est d'avoir le droit de voter, d'être reconnu, d'avoir le droit d'utiliser les espaces publics, d'aller dans les mêmes écoles et dans les mêmes lieux publics que les Blancs. Ils veulent partager l'espace. Ce que propose Malcolm X au Nord, ça n'a rien à voir. Lui, il ne veut pas l'intégration. Pour reprendre la phrase d'un des amis de Malcolm X, le grand écrivain africain-américain James Baldwin, « Pourquoi voudrions-nous intégrer une maison en flammes, une maison qui brûle ?» Nous ne voulons pas intégrer cette maison. Et ce discours-là, c'est un discours que Malcolm X porte à son point d'incandescence lorsqu'il essaye d'expliquer que ce qui l'intéresse, lui, ça n'est pas du tout l'intégration ou le fait de partager l'Amérique avec ce qu'il appelle l'oncle Sam, c'est-à-dire avec ses dominants qui n'ont rien à voir avec ce qu'est la véritable culture noire. Et d'ailleurs, il établit une distinction entre la révolution noire et la révolution nègre. Pour lui, il a la fausse révolution faite par les Noirs du Sud, ceux qui veulent devenir américains, et la vraie révolution, celle que lui propose. Et c'est cet extrait d'un de ses discours que je me propose de vous lire maintenant, sur cette distinction, c'est un discours qu'il tient en 63, entre la révolution noire et la révolution nègre. Il évoque les différentes révolutions qui se passent dans le monde, et il ajoute: je vous rappelle toutes ces révolutions, mes frères et mes sœurs, pour vous montrer qu'il n'existe pas de révolution pacifique. Il n'existe pas de révolution où l'on tend de la joue gauche. Une révolution non violente, ça n'existe pas. La seule espèce de révolution qui soit non violente, c'est la révolution nègre. C'est la seule qui ait pour but la déségrégation des comptoirs de restaurants, la déségrégation des jardins publics, la déségrégation des lavabos dans les lieux publics. Vous pouvez vous asseoir à côté d'un blanc sur le siège des cabinets. Ce n'est pas une révolution, ça. La révolution est fondée sur la terre. La terre est le fondement de toute indépendance. La terre est le fondement de la liberté, de la justice et de l'égalité. L'homme blanc sait ce qu'est une révolution. Il sait que la révolution noire est internationale de par sa portée, de par sa nature. La révolution noire balaie l'Asie, balaie l'Afrique, dresse la tête en Amérique latine. La révolution cubaine, voilà une vraie révolution. Ils ont renversé le système. La révolution est en Asie, la révolution est en Afrique. Et le blanc crie de peur parce qu'il voit la révolution en Amérique latine. Comment pensez-vous qu'il va réagir à votre égard lorsque vous lui aurez appris ce qu'est une vraie révolution? Vous ne savez pas ce qu'est une révolution. Si vous le saviez, vous ne vous serviriez pas de ce mot. La révolution est sanglante, la révolution est hostile. La révolution ne connaît pas le compromis, la révolution renverse et détruit tout ce qui lui fait obstacle. Et vous, vous êtes assis là, pareil à des bécasses posées sur un mur, disant « Je m'en vais aimer ces gens-là, si fort qu'ils ne puissent pas me haïr. » Non, c'est une révolution qu'il vous faut. Qui n'a jamais entendu parler de révolution, là où l'on se tient par la main, comme l'a si bien dit le pasteur Cleage pour chanter « We shall overcome ». Cela ne fait pas une révolution. On ne chante pas tant qu'on est occupé à danser. La révolution est fondée sur la terre. Un révolutionnaire veut la terre pour y établir sa propre nation, une nation indépendante. Les nègres ne revendiquent pas une nation. Ils s'efforcent de retourner en rampant sur la plantation. Lorsqu'on veut une nation, cela s'appelle nationalisme. lorsque les Blancs des États-Unis se sont trouvés engagés dans une révolution contre l'Angleterre. Pourquoi était-ce ? Le Blanc de ce pays voulait cette terre pour y édifier une autre nation blanche. C'est le nationalisme blanc. La Révolution américaine, c'était le nationalisme blanc. La Révolution russe également. Mais oui, c'était le nationalisme blanc. Vous n'êtes pas de cet avis ? Pourquoi croyez-vous que Khrouchtchev et Mao ne peuvent pas se mettre d'accord ? À cause du nationalisme blanc. Si vous avez peur du nationalisme noir, vous avez peur de la révolution. Et si vous aimez la révolution, vous aimez le nationalisme noir. En somme, ce qu'il explique, c'est que, pour lui, l'émancipation du noir, elle se fait par l'acquisition d'une terre, par le nationalisme, par la sécession, par le fait d'avoir son propre pays. Et l'on retrouve, c'est assez intéressant, des échos de la pensée de Frantz Fanon, qui, à peu près à la même époque, en particulier dans Peau noire, masque blanc, parle justement de cette libération que suppose le fait d'avoir recours à ce qu'il appelle la violence désintoxicatrice. Le fait que trop de Noirs ont appris à penser que seul faire comme les Blancs, être dans le magasin du Blanc, ou comme le dit Césaire aussi ailleurs, jouer avec le chapeau du Blanc, finir par se le mettre par la tête, sur la tête, et se croire aussi beau que le Blanc, que c'était une imposture, qu'il fallait cesser de vouloir être comme les Blancs dans le pays des Blancs. Et donc, plutôt que de se penser comme une minorité en Amérique, Malcolm X pense que les Noirs sont une majorité dans le monde. Et il voit les Noirs américains comme les membres d'une gigantesque population noire dans laquelle il inclut les pays colonisés, les peuples de couleur d'Asie et d'Amérique latine. C'est donc une pensée panafricaine et une pensée internationaliste profonde. Et il ajoute encore « Non, je ne suis pas américain ». Et c'est peut-être cela qui est la plus grande des distinctions entre le mouvement des droits civiques et Malcolm X. Non, je ne suis pas américain. Je suis l'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes de l'américanisme. L'un des 22 millions de Noirs qui sont victimes d'une démocratie qui n'est rien d'autre qu'une hypocrisie déguisée. Aussi ne suis-je pas ici pour vous parler en tant qu'Américain, en tant que patriote, en tant qu'adorateur ou porteur de drapeau. Non, ce n'est pas mon genre. Je m'adresse à vous en tant que victime de ce système américain. Et je vois l'Amérique par les yeux de la victime. Ce n'est pas un rêve américain que je vois, mais un cauchemar américain. Évidemment, il est intéressant de comprendre le contexte dans lequel les deux discours que je viens de vous lire ont été établis. Ce sont évidemment des discours qui, en contrebande, sont destinés à critiquer le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Martin Luther King qui, en 1963, lors de la marche de Washington, a fait ce célèbre discours qu'on a retenu comme étant le discours de « j'ai fait un rêve, je rêve de la réconciliation, je rêve de la rédemption ». Ce à quoi Malcolm X répond, il n'y a pas de rêve possible en Amérique. L'Amérique, c'est un cauchemar. Et donc, arrêtez de croire que vous pouvez vous réconcilier avec les Blancs. Arrêtez de croire qu'il est possible d'obtenir un terrain d'entente parce que nous ne sommes pas faits pour vivre sur le même pays. Alors, à la différence de Marcus Garvey, Malcolm X ne pense pas qu'il faille tous partir en Afrique. Certains ont tenté, vous savez, les fondateurs du Liberia au milieu du XIXe siècle, certains esclaves affranchis sont partis pour fonder le Liberia. Marcus Garvey a essayé de rapatrier un certain nombre d'Africains sur les terres d'Afrique. Plus tard, dans les années 50, lorsque le Ghana de Nkrumah prend son indépendance, de nombreux Noirs américains repartent aussi. En général, c'est assez difficile parce que c'est un véritable déracinement. Pour Malcolm X, il ne s'agit pas de quitter la terre des États-Unis, mais de mettre en place une véritable forme de sécession. Et la sécession, elle commence par le fait de ne pas participer à la vie démocratique, parce que pour lui, cette démocratie américaine, c'est une imposture. Lui ne croit pas qu'avoir le droit de vote serve à quoi que ce soit, puisque le système est entièrement corrompu. Il ne pense pas qu'il soit nécessaire de réclamer les espaces publics avec les Blancs. Il est au contraire favorable à une séparation totale entre les races. Et cela amène à des choses tout à fait surprenantes avec lesquelles les historiens ont parfois du mal, il faut tenter de le comprendre. La Nation of Islam, avec Malcolm X comme porte-parole, a pris contact par exemple avec le Ku Klux Klan. Ils se sont rencontrés. Ils considéraient qu'ils avaient des points d'accord. Les deux étaient complètement défavorables au mélange des races. Lorsque le parti nazi américain de George Rockwell est fondé au début des années 60, il y a une rencontre organisée Et Rockwell trouve que Malcolm X est un homme tout à fait formidable. Cette idée selon laquelle, puisque de toute façon le système démocratique américain était une hypocrisie et une imposture, que toute tentative d'intégration et de réconciliation était un mélange, d'une certaine façon, les radicaux comme Malcolm X préféraient des gens qui étaient francs du collier, pour tout dire, qui disaient très clairement qu'il n'était pas question de négocier et qu'il y avait une hiérarchie des races, au moins ils avaient le sentiment de savoir à qui ils avaient affaire, plutôt qu'à l'hypocrisie de ceux qui prétendaient être les amis des Noirs et qui en réalité voulaient poursuivre la hiérarchie et, et les discriminations. Par la suite, en particulier lorsque les membres du clan menaceront Martin Luther King, Malcolm X évoluera et dira que enverra une lettre aux membres du Ku Klux Klan en disant « Méfiez-vous, le premier d'entre vous qui touche un cheveu de la tête de Martin Luther King aura affaire à moi ». Néanmoins, dans la logique qui était celle de la Nation of Islam et de Elijah Muhammad, l'idée était vraiment de ne pas faire de politique. Et c'est un point de divergence très rapide entre Malcolm X et la hiérarchie de la Nation of Islam. La première source de divergence, pour être parfaitement honnête, c'est que Malcolm X est extrêmement brillant et extrêmement talentueux, que très rapidement la Nation of Islam rassemble jusqu'à 100 000 membres et que c'est en grande partie grâce à Malcolm X. Il y a un jeune boxeur de talent qui s'appelle Cassius Clay qui se déplace jusqu'à Détroit pour écouter la parole de cet homme dont on entend tellement parler, qui est Malcolm X. Il est tellement fasciné par la parole de Malcolm X qu'il se convertit. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il devient Mohamed Ali, peut-être le plus grand boxeur de tous les temps, et l'un des plus grands porte-parole de la Nation of Islam. Un ami personnel de Malcolm X. Il est un peu comme son grand frère, il suit tous ses enseignements. Et hélas, lorsque Malcolm X sera répudié par Elijah Muhammad et qu'il quittera la Nation of Islam, Mohamed Ali fera le choix de rester avec Elijah Muhammad et refusera de parler à Malcolm X. Et il a dit il y a quelques années que c'était peut-être un des plus grands regrets de sa vie d'avoir trahi son ami. Mais tout ça pour vous dire à quel point le succès de Malcolm X commence à faire ombrage à la direction de la Nation of Islam. Un autre épisode très important, en 1956, on est dans les rues de Harlem et une altercation, comme souvent, comme tout le temps, comme probablement alors qu'on est en train de parler, il est en train de se passer dans les quartiers noirs aux États-Unis, une altercation entre la police et des jeunes noirs. Là, en l'occurrence, il s'agit sur Lenox Avenue de trois membres de la Nation of Islam, trois jeunes noirs qui sont arrêtés, interpellés par deux policiers blancs. Les choses se passent pas bien, ça se monte en épingle, il y a de la tension, un attroupement commence à se produire. Les trois noirs sont arrêtés, plus ou moins passés à tabac, amenés au poste de police. Les noirs et les membres de la Nation of Islam de la section locale de Harlem est prévenu, un attroupement arrive devant, de plusieurs milliers de personnes arrivent devant le commissariat et on a très peur que les choses tournent au vilain et qu'il y ait une émeute. Malcolm X est prévenu, il arrive, on l'autorise à parler à Hinton, qui est le principal des prévenus qui sera jugé par la suite. Il parle avec la police et au moment où il sort, la foule est attroupé, les gens demandent justice, il y a une espèce de tension extrêmement grande, et d'un signe de la main, Malcolm X donne ordre à tous les membres de la Nation of Islam qui étaient là de faire demi-tour et de partir. Et non seulement les membres du groupe font demi-tour et quittent les lieux, mais toute la foule se disperse. Et un policier qui était là se dit « Je n'ai jamais rien vu de tel. Aucun homme ne devrait avoir autant de pouvoir. » Et ça vous donne une idée de la puissance spirituelle et politique de Malcolm X qui était capable d'un geste, de calmer la fureur et de faire en sorte que les gens lui obéissent. Et donc toute cette puissance, tout ce succès, évidemment, commence à poser problème. Elijah Muhammad veut que la Nation of Islam reste un petit business qui se passe bien. Tous les membres de la Nation of Islam étaient obligés de donner 10% de leurs revenus à la Nation of Islam. C'était donc une entreprise très lucrative. La Nation of Islam commençait à acheter des restaurants, des journaux. Mais pour Elijah Muhammad, il ne fallait surtout pas faire de politique. Il ne fallait pas réclamer le droit de vote. Il ne fallait pas commencer à s'organiser. Ce n'était pas ça le sujet. Il fallait être dans une logique très communautaire, séparationniste, s'occuper de nos propres affaires et faire du profit, avoir de plus en plus de mosquées, mais ne pas commencer à se piquer de politique. Or, si je reviens à cette histoire d'altercation et de ces trois jeunes noirs qui sont arrêtés, la section de Nation of Islam de Harlem, dirigée par Malcolm X, ne s'arrête pas là. Il porte plainte contre la police de New York. Et ils obtiennent un truc complètement fou, $70,000 pour l'époque de dommages et intérêts payés à la Nation of Islam parce que les jeunes noirs sont parfaitement innocentés. Alors quand vous voyez aujourd'hui à quel point il est difficile d'obtenir la condamnation du moindre policier blanc qui tue un noir, vous pouvez imaginer à l'époque cette révolution qui a constitué le fait d'obtenir des dommages et intérêts de la part de la police. Et très rapidement, Malcolm X a compris que cette position qui consistait à revendiquer une conscience noire sans jamais faire de politique, c'était une situation qui était intenable, qu'on ne pouvait pas obtenir la libération et l'égalité sans faire de politique. Donc il y avait déjà des dissensions. Et lorsqu'en 1963, John Kennedy, président des États-Unis, est assassiné, les journalistes qui commencent à s'intéresser beaucoup à la Nation of Islam, en particulier depuis qu'un documentaire qui s'appelle « La haine que la haine produit » a été consacré à la Nation of Islam, passé sur tous les écrans et a commencé à faire en sorte que le FBI s'intéresse de très près à cette secte de plus en plus subversive. En 1963, les journalistes vont voir Malcolm X et lui disent « Voilà, le président américain vient d'être assassiné, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait ?» Et Malcolm X répond « Vous savez, qui sème le vent récolte la tempête. » Alors c'est le proverbe français le plus proche que j'ai trouvé de la traduction anglaise qui littéralement signifie le coq revient chanter chez lui, ce qui veut dire « on n'a rien sans rien et peut-être qu'il ne l'a pas volé ». Et cette déclaration, alors il faut savoir que Kennedy était une idole, une icône absolue qui venait d'être assassinée, que toute l'Amérique pleurait, et dire, d'une certaine façon, s'il a été assassiné, c'est qu'il y avait une bonne raison et qu'il l'a peut-être cherché, ça provoque un scandale absolu. Elijah Muhammad prend prétexte de cette déclaration pour punir Malcolm X. Il en a 90 jours de silence. Tout le monde a bien compris que c'était un prétexte et que ce n'était pas ça la raison. La raison, c'est à la fois la montée en puissance de Malcolm X, le fait qu'il devient de plus en plus politique, la jalousie d'Elijah Muhammad, qui entend bien que son propre fils Wallace devienne le successeur et que Malcolm X est un petit peu trop, contrarie un petit peu trop ses ambitions. Et puis, il y a autre chose. La rumeur de plus en plus forte parvient aux oreilles de Malcolm X que Elijah Muhammad, cet homme qu'il révère, ce saint, cette personnalité quasiment paternelle pour lui, se rend coupable depuis plusieurs années de comportements déplacés vis-à-vis de jeunes femmes de l'organisation, qu'il a mis enceinte certaines d'entre elles avant de les répudier. Et pour Malcolm X, c'est quelque chose d'inconcevable, et néanmoins, il demande des explications. C'est quelque chose de très important à comprendre, parce que l'un des succès de la parole de Malcolm X et de la Nation of Islam, mais plus particulièrement de Malcolm X, tourne autour de l'idéologie viriliste, de l'idée de la dignité de l'homme noir. Alors cette dignité, elle a des aspects un petit peu particulier, c'est une idéologie extrêmement patriarcale dans laquelle les femmes n'ont qu'un rôle à jouer, dans laquelle l'antisémitisme et l'homophobie sont très présents, et l'idée selon laquelle finalement l'agent de la révolution c'est l'homme noir, l'homme libéré, l'homme viril, l'homme puissant. Mais il y a derrière cette idée de puissance virile quelque chose d'autre. À la mort de Malcolm X, je prends un petit peu d'avance, c'est l'activiste et acteur Ossie Davis qui prononcera le discours funèbre. Et il dit de Malcolm X, vous avez passé votre vie à le condamner, à dire qu'il était ceci, qu'il était cela, mais est-ce que vous lui avez jamais parlé? Vous devez comprendre que pour nous les Noirs, « he was our manhood ». Et ce mot « manhood », en préparant cette conférence, j'ai vraiment bataillé pour essayer de le traduire, parce qu'on ne peut pas le traduire. Donc, c'est notre nature d'être un homme. Alors, on peut dire que c'est notre virilité, notre masculinité, mais « man », en anglais, c'est plus que « homme », c'est le genre masculin, mais c'est aussi le fait d'être humain, être un homme par opposition à être un animal. Et donc, lorsque Ossie Davis dit de Malcolm X qu'il leur a rendu leur « manhood », il a rendu la fierté d'être un homme, mais aussi le sens que les Noirs étaient des humains, c'est-à-dire genre ou le man, homme au sens générique du terme. Et donc lorsqu'il apprend que cet homme, qui est son maître à penser et son mentor, n'incarne pas cet idéal de l'homme noir, mais qu'en réalité il se comporte comme un homme, un pécheur, quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, c'est un choc profond. Et donc il lui demande des explications. Donc tout ça participe d'une tension très très forte entre la direction de la Nation of Islam et Malcolm X. Et Malcolm X comprend très vite que les 90 jours de purgatoire qui lui sont infligés ne seront jamais levés. C'est à ce moment-là que tous ses amis se détournent de lui, dont Mohamed Ali, et qu'il décide de lui-même de quitter l'organisation. Il quitte l'organisation et il part dans un grand voyage, un voyage qui le mène en Afrique et au Moyen-Orient, et plus précisément, il décide de faire son pèlerinage à la Mecque. Et c'est avec le pèlerinage à la Mecque, et surtout avec le fait de quitter enfin les États-Unis et de se libérer de la Nation of Islam, qu'il entame ce que j'ai choisi d'appeler la dernière phase de sa vie, qui correspond à la dernière photographie, qui est l'âge de la libération. C'est-à-dire qu'il cesse, parler au nom de la Nation of Islam, il cesse de parler au nom de l'honorable Elijah Muhammad, il parle en son nom. Et donc, en parlant en son nom, évidemment, il rompt avec un certain nombre de choses qu'il avait dites avant. Et bien sûr, le premier acte de libération, c'est de changer de nom. Et donc, il devient El-Hajj Malik El-Shabazz. Il n'est plus Malcolm X. Il prend son nom de converti après son pèlerinage à la Mecque. Et quelque chose d'incroyable se passe quand il est à la Mecque, quelque chose d'incroyable pour lui, c'est qu'il découvre... les choses qu'il pensait, comme le fait que tous les noirs, que tous les blancs, pardon, étaient des démons aux yeux bleus, bah, que c'est pas tout à fait ce qu'il voit. Quand il est à la Mecque, il découvre qu'il y a des musulmans blancs, des musulmans roux, des musulmans blonds, qu'il y a des asiatiques, qui le traitent comme un frère. Il comprend que l'idée de la hiérarchie des races est en fait une imposture, que la question n'est pas de savoir les blancs et les noirs, mais plutôt ceux qui ont le pouvoir et qui dominent et les opprimés, et que cette nouvelle dialectique, c'est elle qui véritablement distingue les justes des autres. Alors qu'il était dans l'idée que les militants des droits civiques comme Martin Luther King étaient des oncles Tom ou des esclaves domestiques, c'est-à-dire qu'ils étaient au service des Blancs, il en vient à reconsidérer leur lutte. Et lorsqu'il revient aux États-Unis, il prend contact avec les jeunes étudiants du mouvement des droits civiques, du mouvement SNCC, et y compris il rejoint Martin Luther King à Selma. Lors d'une de ses dernières marches, il rencontre Coretta King et il lui dit « Vous savez, moi, dans l'image des Blancs, je suis le mauvais noir. Et donc, ça peut vous être utile de m'avoir comme image repoussoire. Peut-être que je peux rendre service au Dr. King parce que du coup, ils auront envie d'aller négocier avec celui qu'ils pensent être leur ambassadeur. » Et il est vrai que d'une certaine façon, on peut dire que Martin Luther King était l'ambassadeur entre l'Amérique blanche et l'Amérique noire et que Malcolm X était le procureur de l'Amérique et qu'il n'a jamais cessé de l'être. Un certain nombre de ses idées sont changées et il l'exprime lui-même lorsqu'il rentre de la Mecque, et je vais vous lire un extrait de ce qu'il dit. À l'heure actuelle, avant de m'engager dans quoi que ce soit, je dois faire connaître clairement ma position. Elle est simple. Je ne suis pas artisan d'aucune forme de racisme. Je ne crois en aucune forme de racisme. Je ne crois en aucune forme de discrimination ou de ségrégation. Je crois en l'islam. Je suis musulman et je pense qu'il n'y a là rien de mal, qu'il n'y a rien de mauvais dans la religion islamique. Elle nous enseigne seulement à croire en Allah, notre Dieu. Ceux d'entre vous qui sont chrétiens croient sans doute au même Dieu, car je pense que vous croyez au Dieu créateur de l'univers. C'est en ce Dieu que nous croyons, en le créateur de l'univers. La seule différence tient à ce que vous l'appelez Dieu, tandis que nous l'appelons Allah. Les Juifs l'appellent Jéhovah. Elijah Muhammad nous avait enseigné que l'homme blanc n'était pas autorisé à pénétrer dans la Mecque, et nous tous qui le suivions, nous le croyons. Quand je suis allée en Arabie, je me suis rendue à la Mecque, et que j'ai vu tous ces gens blonds aux yeux bleus, la peau claire, et tout, je me suis dit, bon, mais je les ai regardés de près, et j'ai remarqué que s'ils étaient blancs, et se disaient tels, il y avait toutefois une différence entre eux et ceux d'ici. Voici cette différence essentielle. En Asie, dans le monde arabe, en Afrique, là où il se trouve des musulmans, si vous en rencontrez un qui se déclare blanc, il ne fait qu'utiliser un adjectif pour décrire l'une de ses caractéristiques accessoires, rien de plus, il est blanc. Mais quand le blanc des États-Unis vous dit qu'il est blanc, il entend autre chose par là. Écoutez le ton qu'il prend. Pour lui, se dire blanc, c'est se déclarer le patron. C'est vrai, c'est ce que blanc veut dire dans cette langue-ci. Vous connaissez l'expression « libre, blanc et majeur », elle est de lui. Il vous fait savoir par là ce que blanc signifie, être maître et être libre. Ce qu'explique Malcolm X là, c'est que fondamentalement, son ennemi, ça n'est pas la race blanche qui ne veut rien dire, c'est la suprématie blanche. Et aujourd'hui encore, lorsque les militants comme ceux de Black Lives Matter parlent de l'Amérique blanche, ça ne veut pas dire tous les blancs. Ça veut dire les blancs qui sont conscients qu'ils ont un privilège et qui entendent bien que la hiérarchie implicite fondée sur la mélanine ne bouge pas. C'est l'ensemble des institutions qui conspirent au racisme et au fait de maintenir les gens de couleur dans un état subalterne. Et c'est ça que comprend Malcolm X. Pendant près d'un an, il met à jour cette nouvelle pensée, mais pour autant, il ne faut pas croire qu'il ait renoncé, qu'il soit devenu un gentil petit agneau favorable à l'intégration. Il reste un radical. Il continue à penser que les Noirs ont le droit à l'autodéfense. Il n'a jamais été l'avocat d'une insurrection armée. En revanche, il a toujours pensé que l'homme qui se défendait face aux morsures du chien n'était pas un homme violent, mais simplement quelqu'un qui avait du bon sens. Il dit « l'islam nous enseigne à être intelligent, et être intelligent, ça veut dire que si un chien m'attaque, je me défends. Si vous venez chez moi et que vous attaquez ma famille, je me défends. Et non, je ne vais pas tendre l'autre joue comme le prêche Martin Luther King. » De même, sa position sur la démocratie est une position qui continue à être une position intéressante parce qu'il se défie de l'ordre démocratique occidental. Et il me rappelle beaucoup, à certains égards, la position d'Aimé Césaire dans Discours de retour d'un pays natal. Vous savez, Césaire dénonce l'hypocrisie de la démocratie européenne qui s'est prétendue comme l'ennemi du nazisme, prétendait combattre Hitler au nom des grandes vertus de l'égalité du genre humain, alors qu'en réalité, il pratiquait le colonialisme. La position de Malcolm X est assez proche de celle-ci. Il critique la démocratie américaine qui se prétend le parangon de la démocratie. En période de guerre froide, l'Occident se prétend être celui qui va libérer les hommes et donne le droit à l'autodétermination, alors qu'en réalité, il maintient les Noirs sous le boisseau. Et il fait partie de ceux qui ont pensé, il n'a pas été le premier, mais ni le dernier, mais c'est un point important, qui pense les Américains noirs comme les membres d'une colonie intérieure. Comme si finalement le statut du noir américain était proche de celle du colonisé. C'est pour ça que le lien entre la pensée de Malcolm X et celle de Frantz Fanon me semble très intéressante. Mais pour vous donner un dernier extrait, voici la pensée politique qui me semble la plus intéressante dans l'internationalisme révolutionnaire de Malcolm X. Voici ce qu'il dit dans un de ses plus célèbres discours, le bulletin de vote ou le fusil. En transformant la lutte pour les droits civiques en lutte pour les droits de l'homme, vous pourrez porter la cause des Noirs de ce pays devant les nations qui siègent à l'ONU. Vous pourrez la défendre devant l'Assemblée des Générales. Vous pourrez traîner l'oncle Sam devant une cour internationale. Mais vous ne pourrez le faire qu'au niveau des droits de l'homme. Au niveau des droits civiques, vous restez soumis aux restrictions que vous impose la juridiction de l'oncle Sam. Au niveau des droits civiques, l'oncle Sam vous met dans sa poche. Lutter pour les droits civiques, c'est demander à l'oncle Sam de vous traiter conformément aux droits. Les droits de l'homme vous sont donnés dès votre naissance. Les droits de l'homme sont les droits reconnus par toutes les nations de cette terre. Vous pouvez attaquer devant le tribunal du monde tous ceux qui violent vos droits humains. Des mains de l'oncle Sam coule le sang noir de ce pays. Il est le plus grand hypocrite qui soit sur cette terre. Il a l'audace, oui l'audace, de se poser en dirigeant du monde libre. Du monde libre. Et vous, vous chantez « We shall overcome », nous vaincrons. Transformez la lutte pour les droits civiques en lutte pour les droits humains de l'homme. Portez votre cause devant l'ONU, où nos frères d'Afrique peuvent nous soutenir de tout leur poids, où nos frères d'Asie peuvent nous soutenir de tout leur poids, où nos frères d'Amérique latine peuvent nous soutenir de tout leur poids, sans oublier 800 millions de Chinois qui attendent de pouvoir nous soutenir de tout leur poids. On est donc dans une logique d'un monde colonial qui s'unirait, dont les Africains-Américains seraient les membres. Et donc, il ne croit pas qu'au sein des États-Unis, par simplement la revendication démocratique, il puisse y avoir d'avenir pour les Noirs. Il pense qu'un jour, une libération internationaliste des peuples de couleur parviendra et qu'en attendant, eh bien, il faut travailler comme on le peut avec le droit à l'autodéfense, mais avec l'idée d'une demande toujours radicale et que peut-être le fusil pour se défendre était tout aussi utile que le bulletin de vote. En 1965, alors qu'il est encore très populaire, mais qu'il sait qu'il est un homme en sursis parce qu'on lui a fait part des menaces d'exécution qui planaient sur sa tête, il se prépare à donner un discours dans la salle de spectacle Audubon à Harlem, une des plus belles salles, une des plus grandes salles de ce quartier. Il commence un discours lorsque dans la foule, il y a du bruit, on ne sait pas très bien ce qui se passe, une échauffourée, et puis trois hommes se dirigent vers l'estrade, et il est assassiné de plusieurs balles. On sait que c'est Elijah Muhammad qui a ordonné l'assassinat de Malcolm X. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances, quelle est la complicité du FBI. Tout ça est toujours assez confus, un petit peu comme pour Martin Luther King finalement. Mais c'en est fini de El-Haj Malik al-Shabazz, qui est donc assassiné pour avoir finalement voulu parler en son nom. Et depuis lors, la question se pose de savoir quel est son héritage, quelle est son image dans l'histoire. Alors c'est très compliqué parce qu'à la fois 9 mois après sa mort, il avait eu l'intelligence de construire sa propre légende en écrivant une autobiographie qui est publiée et qui commence à avoir beaucoup de succès, dans laquelle il raconte son propre itinéraire. Mais ensuite, avec l'assassinat de Martin Luther King, les historiens, le grand public, les journalistes ont commencé à raconter la fable selon laquelle il y avait le gentil militant des droits des Noirs qui était Malcolm X, qui voulait l'amour et la réconciliation, et le méchant militant des droits des Noirs qui était Malcolm X, qui lui était le musulman qui voulait la violence. C'est aussi faux dans un cas que dans un autre. Il y avait beaucoup de points communs entre Malcolm X et Martin Luther King, qui avaient beaucoup d'affection d'ailleurs l'un pour l'autre, malgré leurs déclarations publiques, et notamment cette dénonciation du capitalisme et de l'impérialisme qu'ils partageaient à la fin de sa vie, et l'idée selon laquelle leur pire ennemi, le pire ennemi du noir, c'est peut-être pas le membre du Ku Klux Klan. Le pire ennemi des Noirs, c'est le blanc modéré qui vous tend la main et qui prétend qu'il a beaucoup d'amis noirs et qui en réalité vous dira toujours « attendez un peu pour la justice ». Pas tout de suite, n'allez pas trop vite, vous savez, on a notre culture, vous savez, puis vous avez fait beaucoup de progrès déjà, n'en demandez pas trop. Celui qui vous demande de patienter, ce modéré-là, celui-là est l'ennemi. Ils avaient ça en commun. Et puis, ils avaient autre chose en commun, un homme dont j'ai déjà parlé, l'écrivain... Noir-américain James Baldwin, qui avait cette phrase qu'ils pouvaient partager tous les deux. Baldwin était à la fois l'ami de l'un et l'ami de l'autre et a écrit des pages remarquables sur l'un comme sur l'autre. Et Baldwin disait « Je suis américain et c'est précisément parce que je suis américain que je m'accorde le droit de critiquer inconditionnellement l'Amérique ». Et je dis bien inconditionnellement. Et sans doute, même si Malcolm X a pu répéter plusieurs fois qu'il n'était pas américain, ils ont ce sentiment que peut-être la chose qui fait l'américanité, c'est le droit de critiquer l'Amérique. Et aujourd'hui, à l'ère de Trump, ça peut être sans doute assez utile de se rappeler ça, qu'être américain, c'est critiquer l'Amérique et critiquer son gouvernement. Et enfin, la dernière chose, évidemment, en 1992, à l'heure où le ghetto noir de Watts est en flammes, parce qu'une fois de plus, une nouvelle altercation policière, un nouveau déni de justice et à nouveau des policiers blancs qui sont acquittés par la justice, sort le film de Spike Lee sur Malcolm X, film remarquable, mais qui construit un mythe et qui construit une légende. Et tout à coup, Malcolm X devient une figure assez hip, assez swag. Ça devient très... Voilà, on a des casquettes, des t-shirts, et on finit par avoir une espèce d'icône et on oublie ce qu'il a écrit et on oublie ce qu'il a lu. Peut-être pour conclure, s'il fallait dire ce qu'a réussi à faire Malcolm X et son rapport à Martin Luther King, même si une fois de plus, je pense qu'ils étaient beaucoup plus des frères ennemis plutôt que des ennemis tout court, je dirais que l'autobiographie est finalement un bon point de départ. En voulant fabriquer cette autobiographie, ce qu'a voulu Malcolm X, c'est écrire sa propre histoire. Et c'est une belle métaphore de ce qu'il a voulu faire pour les Noirs des ghettos du Nord. Il a peut-être, lui, plus qu'un autre, réussi à comprendre que les Noirs américains en avaient assez d'être des notes de bas de page dans le grand livre d'histoire américaine écrite par les autres. Qu'il voulait être des sujets, qu'ils voulaient être ceux qui parlaient en leur nom, dire nous, récupérer leur histoire, se rapatrier leur propre récit et avoir un sens de cette dignité qui leur avait été confisquée. C'est ce que Frantz Fanon, j'y reviens, appelait la décolonisation des esprits. Peut-être que ce qu'a réussi à faire Malcolm X, c'est à décoloniser les esprits et à donner l'idée d'une forme de puissance. Et je finirai en disant, puisqu'à chaque fois qu'on parle de Malcolm X, on est toujours un petit peu obligé de parler de Martin Luther King, que si Martin Luther King a donné aux Noirs d'Amérique confiance en l'Amérique, Malcolm X, lui, a donné confiance aux Noirs eux-mêmes. Il leur a donné confiance en leur pouvoir. Je vous remercie. si vous avez des questions.
Alors, madame, bravo.
Merci.
Bravo, bravo, bravo. Et Malcolm X dit, moi, je suis fière d'être noire. Et je vais vous dire une chose, moi, je suis fière d'être une femme quand je vous écoute. Oui, c'est pas politique, c'est un état à tous les niveaux, intellectuellement et physiquement. Merci, madame.
Je vous en prie.
Mais non, c'est vrai, vous êtes d'accord. Mais oui, madame, je suis fière d'être une femme.
Disons qu'on va penser aux millions de femmes qui ont protesté de toutes les villes américaines il y a deux jours, avec, vous savez, leur petit chapeau rose, la Women's March. Voilà, on leur dédie.
Non, mais je ne veux pas faire de politique, mais je le pense sincèrement. C'est très gentil, ce que je dis. Hein.
Mais je le prends comme tel.
Alors, j'ai deux questions toutes simples. Non, qui n'est pas simple du tout, la première. Moi, quand je vous ai écouté, j'aime Malcolm X. Mais alors, il est pour les ghettos, en réalité, madame. Et deuxième question, il est pour les ghettos, oui. Deuxième question, vous avez l'air de dire que c'est le président de... Enfin, le directeur de... Je ne sais plus comment vous l'appelez, là...
Elijah Muhammad de la Nation of Islam.
Oui, Nation of Islam, c'est l'ancien directeur qui l'aurait peut-être tué. C'est ça ce que vous dites?
Alors, ce n'est pas l'ancien directeur, il était toujours le à la tête de la Nation of Islam.
Celui qui avait tant de maîtresses.
Celui qui avait quelques maîtresses, c'est lui.
Merci,
qui en
madame.
Effet... Voilà, c'est ça. Et votre première question était, est-ce qu'il est pour le ghetto, c'est ça? Ah, pour la ségrégation urbaine. Alors, le ghetto est une forme de ségrégation très particulière que les Noirs subissent. C'est-à-dire que c'est parce qu'ils sont exclus des mécanismes de l'ascension sociale et exclus des espaces blancs qu'ils sont confinés dans ces espèces de quadrilatères, de déliquescence urbaine. Ça n'est pas à ça que pense Malcolm X, même s'il me semble très important de dire en effet qu'il a compris qu'il y avait une culture des ghettos, qu'il y a cette culture très particulière de l'enfermement. C'est pour ça que la métaphore coloniale est très intéressante. C'est-à-dire qu'on est une espèce de petite minorité au milieu de l'abondance, de la prospérité, de la liberté, et qu'on est privé par une espèce de mur invisible qui, souvent aux États-Unis, mais vous savez qu'aujourd'hui les États-Unis sont plus ségrégés que dans les années 60. On sort de 8 ans d'Obama, il faut quand même le savoir. Aujourd'hui, les géographes font des cartes, je vous invite à regarder ça sur Internet, c'est tout à fait stupéfiant, où vous avez en bleu et en rouge les différentes populations dans les villes. Regardez Milwaukee ou Détroit, vous avez une route. Au nord, tout est rouge, c'est-à-dire population noire, et au sud, tout est blanc. Et cette ségrégation fait qu'aujourd'hui, et ça participe, j'y reviens, de l'élection de Donald Trump, les gens de couleur ne vivent pas avec les blancs et vice-versa. On ne sait pas comment les autres vivent. On est dans une espèce de fantasme, on ne se parle pas. Et donc, l'idée qu'il y a dans ces quartiers d'enfermement une culture particulière, qui est à la fois une culture de souffrance et de domination, mais aussi une culture d'une extrême richesse, d'une communauté, d'une solidarité, où, bien avant d'avoir créé le hip-hop dans le Bronx à la fin des années 70, on a eu la Harlem Renaissance, une culture artistique, littéraire et musicale, tout à fait remarquable, qu'il y a quelque chose de particulier dans cette culture du ghetto, et ça, il a su parler à ce mélange de créativité, de désir d'émancipation. Mais il n'est pas favorable. Il est favorable à une forme de sécession morale, alors que ce soit dans le ghetto ou en dehors, ça peut être au sud des États-Unis, mais l'idée que les espaces sont très clairement disjoints entre les Noirs et les Blancs. Une fois de plus, il y aura un aggiornamento de sa pensée à la fin de sa vie, même s'il continue à penser que on ne peut pas faire confiance aux Blancs, fondamentalement. Sauf si les musulmans. Voilà. Tout à fait.
Bonsoir, je suis là, votre gauche.
Faites-moi un petit signe. Oui, je vous...
Vous nous avez fait une belle description de la vision de Malcolm sur les différentes révolutions qu'il y a eu dans le monde. C'était très clair, donc la plupart très violente. Quelle était sa position sur ce qui s'est passé en Inde, donc ce mouvement très pacifique de Gandhi? Et la deuxième question que je voudrais poser dans la même lancée, est-ce qu'il avait connaissance, je suppose que oui, puisqu'il avait l'air d'être très instruit, avait-il connaissance de l'esclavage dans le monde islamique, enfin surtout dans le monde arabe, et qu'en pensait-il?
Alors, pour la deuxième question, À ma connaissance, il ne s'est jamais exprimé sur, sur l'esclavage tel qu'il a été pratiqué à la fin du Moyen-Âge dans le nord du Sahel, et le fait que les populations arabes auraient été les premières avant les Occidentaux à réduire en esclavage les populations nord-africaines. Je ne crois pas qu'il en ait jamais parlé. Je ne sais pas ce qu'il en était d'ailleurs, pour être parfaitement honnête, sur l'historiographie de cette question à l'époque, puisque c'est un sujet quand même qui a été pas mal redécouvert depuis les années 80. Donc à ma connaissance, il ne s'est pas exprimé. Votre première question sur la révolution indienne est très intéressante, puisque la révolution gandhienne est le grand modèle de Martin Luther King. La révolution non violente, l'idée de la satyagraha, de l'amour force et de la façon dont d'Indiens sont parvenus sans coup férir à faire plier l'Empire britannique, c'est le grand modèle de Martin Luther King qui se rend en Inde en 1957. Donc c'est un petit peu un contre-modèle pour Malcolm X, qui ne prend jamais la révolution indienne comme modèle et qui pense en réalité que c'est un contre-exemple. Son grand exemple, c'est la révolution des Mau-Mau au Kenya, qui est intéressante parce qu'elle a été considérée comme une révolution hyper violente, alors que pour lui, c'était véritablement l'exemple d'un peuple qui se bat pour la liberté, parce qu'il y a toujours quand même chez lui l'idée très fanonienne. Et que l'on retrouve, il n'a pas été le premier à l'inventer dans l'histoire noire américaine. Les premiers esclaves, d'ailleurs, c'est intéressant, il y a en ce moment sur les écrans le film Naissance d'une nation, qui raconte la vie de Nat Turner. Et je pense qu'il y a des points très intéressants de comparaison. Alors Nat Turner, cet esclave qui s'est révolté et qui a tué près d'une soixantaine de blancs et qui a été construit dans la mémoire blanche américaine comme l'espèce de monstre, la bête noire, etc. Et qui a posé la question de finalement, est-ce que la violence est légitime ? Est-ce que l'esclavage n'est pas quelque chose de tellement ignoble, inhumain et horrible que finalement on a le droit de tuer votre bourreau, on a le droit de tuer la famille des planteurs blancs. Et il y a eu toute une réflexion morale et un dilemme évidemment toujours insoluble sur la question de la justice et de a-t-on le droit de tuer pour sa propre défense. Et Malcolm X pose un peu les mêmes questions. Est-ce qu'on a le droit de se défendre et c'est une question qui est très très embarrassante parce qu'elle semblerait légitimer la violence. Donc il y a un parallèle entre ces deux points. Et donc par conséquent, pour revenir à l'idée de Malcolm X, son idée c'est que même si on n'obtient pas la victoire, le simple fait de se révolter et d'oser lever la main sur celui qui vous opprime, c'est déjà une forme d'émancipation. Il est complètement dans la logique de Frantz Fanon de ce point de vue. Il y avait une question.
Bonjour professeur, donc déjà c'est un bonheur de vous retrouver depuis les bancs de Sciences Po.
Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois pas.
Pas.
Donnez-moi votre prénom que je...
Leslie.
Leslie. Ravie de vous voir, Leslie.
Merci. Donc j'avais deux questions. La première, en ayant quitté The Nation of Islam, est-ce que Malcolm X avait l'ambition de fonder une nouvelle organisation ? Quel était son état d'esprit et que voyait-il pour l'avenir ? La deuxième, c'est que vous avez parlé justement de l'héritage de Malcolm X et la philosophie de Malcolm X n'a-t-elle pas justement influencé l'idéologie des Black Panthers qui ont été fondées ensuite ?
Excellente question, Leslie. Et je vous remercie parce que ça me permet de corriger une omission que j'ai faite. Oui, lorsqu'il quitte la Nation of Islam, il fonde deux groupes particuliers. The Muslim Mosque Inc., la mosquée musulmane, c'est un petit peu redondant, qui est une série d'organisations religieuses aux États-Unis, et l'Organisation de l'unité afro-américaine, qui sont deux institutions particulières qu'il fonde, qui sont complètement indépendantes de la Nation of Islam, et qui ont pour but de faire non seulement un travail de messianisme musulman auprès des Noirs américains classiques, ce qu'il a toujours fait, et d'autre part de s'intégrer dans le grand mouvement panafricain auprès des peuples colonisés et de présenter finalement les Noirs américains aux Nations Unies comme un peuple opprimé. Donc il a cette ambition internationaliste telle que je l'exprimais dans le dernier extrait que j'ai lu et son ambition locale. Et quant à sa philosophie, oh oui, elle a énormément influencé. Mais en fait, avant d'arriver aux Black Panthers, il y a un mouvement intermédiaire qui est le mouvement du Black Power. Le Black Power commence en 1966 autour de Stokely Carmichael, lorsque Stokely, qui est justement un jeune garçon proche de Martin Luther King, comprend lui aussi que la non-violence et que la politique de l'amour, ça ne suffit pas, et qu'il commence lui-même à vouloir appliquer au Sud une forme d'autodéfense. Et il défend l'idée du black power, du pouvoir noir, c'est-à-dire de considérer qu'il faut que les Noirs cessent de vouloir absolument s'unir avec les Blancs et que l'avenir, c'est d'abord d'être entre Noirs, de construire des institutions noires, d'avoir des groupes militants noirs. Et c'est à partir du mouvement du black power que naîtra à Auckland, en 66, le mouvement des Black Panthers, qui lui reprendra de Malcolm X cette idéologie viriliste, avec le choix, comme la Nation of Islam avait une espèce de milice, de service de sécurité qui s'appelle les fruits de l'islam, qui avait cette espèce d'uniforme noir et ça. Et les Black Panthers reprendront ça avec la veste en cuir, la casquette noire et le AK-47 qui est le petit élément mode qui fait que l'ensemble a beaucoup d'allure. Et donc les hommes patrouillent dans la rue comme ça avec l'idée que, attention, l'homme noir est dangereux, mais pas dangereux parce que depuis la nuit des temps, on les accuse d'être des violeurs et d'être des bêtes en puissance, mais parce qu'ils ont cette espèce de pouvoir d'autorité. Et ça impressionnera beaucoup, et les Black Panthers sont un mouvement révolutionnaire tout à fait important jusqu'à leur disparition. Donc on retrouve en effet complètement cette idée d'une forme de nationalisme et surtout l'internationalisme, puisque ce qui est très intéressant avec les Black Panthers, c'est que c'est un mouvement marxiste. C'est un mouvement qui pense qu'il faut lutter contre l'impérialisme et le capitalisme et que ça n'est que l'union des peuples opprimés au travers le monde qui donnera la libération des Noirs. Petit problème, il tombe aussi dans les errements de ce qu'était la pensée du Black Power et qu'on retrouvait déjà dans la Nation of Islam, qui est une forme de sexisme que Angela Davis sera la première à contester lorsqu'elle deviendra une avocate des Black Panthers, mais avec l'idée qu'il faudrait quand même que les sœurs aient un petit peu plus le droit à la parole. Et donc c'est un combat, mais toujours compliqué, puisque y compris le féminisme noir mettra un petit peu plus de temps à parvenir à maturité dans les années 70, mais avec ensuite des choses extrêmement intéressantes. Donc oui pour l'influence absolue de les deux organisations qu'il a fondées très rapidement. Enfin, elles étaient juste en train de naître, donc elles ont disparu quasiment aussi vite. Mais en revanche, sa pensée et ce qu'il a incarné et cette idée de fierté, mais on peut aller jusqu'à aujourd'hui, puisque une grande partie du mouvement esthétique autour du hip-hop est très influencée à la fois par le premier âge de Malcolm X, l'idée du gangster, et aussi par l'idée de la fierté, de la virilité, de la revendication culturelle. Donc il est toujours très présent.
Je suis ici, là.
Voilà. Je vois une ombre.
Ouais. On se souviendra de Malcolm X comme un personnage assez contrasté, et je me demandais selon quels aspects est-ce qu'on peut considérer que c'est un héros, et donc un emblème de la culture noire.
En quoi est-ce que c'est un héros C'est très compliqué, puisqu'en finalement c'est un jugement de valeur que chacun porte en fonction du regard qu'il porte. En tant qu'historienne, moi, ce que je peux vous dire, je peux pas vous dire si c'est un héros, et y compris je suis biographe de Martin Luther King et je saurais pas davantage vous dire si Martin Luther King est un héros. Ce que je sais, c'est que leurs paroles et leur vie ont été consacrées à la justice et à l'égalité. Et que si l'on considère que la justice et l'égalité sont des combats dignes de l'humanité, alors ils ont été de sacrés bons petits soldats de la cause. Donc Malcolm X, comme Martin Luther King, comme les dizaines de femmes qui ont participé au combat pour l'égalité raciale aux États-Unis depuis les premiers jours de l'esclavage, sont des gens qui ont considéré que, pour reprendre la phrase de Martin Luther King, si vous n'avez pas de cause dans la vie pour laquelle vous êtes prête à mourir, alors votre vie ne mérite pas d'être vécue. Et ce sont des gens qui ont consacré leur vie à essayer de donner aux gens qui les écoutaient l'idée qu'il y avait un horizon au-delà de la souffrance, qu'il y avait une perspective au-delà de l'oppression, qu'il était possible un jour de penser à la vérité. C'est finalement le message que les hommes donnent lorsqu'ils laissent de côté la religion. Vous savez, la religion vous dit « ici c'est dur, mais bon, après ce sera le paradis, on sera à côté de Dieu, on aura 150 vierges, ce sera super, on sera au paradis. Bon. » Ces gens-là disent « non, on ne va pas attendre la mort, ça va être ici, maintenant, vous allez voir, on va y arriver. Et ce message-là, que ce soit pour la révolution ou que ce soit pour la réconciliation, ce sont des messages qui ont permis à des milliers de Noirs américains de se lever et de se sentir un peu plus dignes et de pouvoir tenir le coup. Donc, à tout le moins, c'est héroïque. Voilà.
Oui. Le noir dans le noir, je ne sais pas si vous me voyez. Je suis par là.
Je vous vois.
Dans le noir, c'est pas sûr que vous me voyez.
Je vous vois, je vous vois.
Vous m'entendez. En tout cas, madame, je vous remercie pour votre excellente conférence qui brosse la biographie de Malcolm X. Moi, j'ai eu l'occasion de... J'ai habité un peu les États-Unis. Avant l'arrivée d'Obama, j'ai habité Atlanta, donc chez Martin Luther King, Birmingham, à Alabama, et l'Illinois, Chicago. Alors, la question des espaces ségrégationnistes, les ghettos dont vous parlez, je pense que c'est... Est-ce que je me suis demandé si... Parce que j'ai fait quelques enquêtes, parce que, bon, quand moi je suis arrivé, j'étais à l'université de Georgia State, et les Noirs américains ou les étudiants, on m'appelait le native, c'est-à-dire que j'ai eu l'Africain original. Et donc ça vous donne une certaine... Mais en même temps, on veut vous entraîner dans le conflit ségrégationniste qui sévit aux États-Unis. Alors, que moi j'ignore, que j'ai des amis blancs, j'ai des amis noirs. Alors ma question, c'est enfin, tout l'expérience que j'ai vécue, je me suis demandé, j'ai compris que les noirs aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'ils veulent vraiment une intégration? Et certainement que la philosophie de Malcolm X a un rôle important. Mais la différence que j'ai constatée, c'est qu'ils ont dit que Luther King disait que si tu veux le pouvoir, il faut commencer par conquérir le pouvoir économique. Alors, c'est la première question que je veux vous poser. Et alors, pour la lutte avec tous les moyens, ennemis. Et tu sais que Nelson Mandela, quand il a été en prison, il avait aussi créé un bras armé contre l'apartheid. Alors, aujourd'hui, dans la société actuelle, vous avez évoqué ce qui se passe maintenant avec Trump qui arrive au pouvoir. Est-ce que la radicalisation, si, par exemple, les provocations de la police blanche, est-ce que ça ne pourrait pas radicaliser davantage encore les positions des Noirs? Je vous remercie.
Alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Les deux questions les plus provocantes et par conséquent les plus intéressantes que vous avez posées. La première, est-ce que les Noirs veulent vraiment l'intégration? Enfin, les Noirs américains, parce que c'est le seul sujet sur lequel je suis compétente. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recours à la violence armée? Et en fait, je vais faire un paquet pour répondre à votre question, parce qu'elles sont liées. Je ne crois pas que la question pertinente est de savoir si les Noirs veulent l'intégration. Les Noirs veulent la justice. Et ils veulent ce à quoi ils ont droit. Les États-Unis ne seraient pas ce qu'ils sont sans la présence, depuis le XVIIe siècle, de cette population noire qui non seulement a donné sa sueur et son sang pour construire le pays, mais est à l'origine de sa fortune, avec le coton et ensuite le financement de l'ensemble de l'économie américaine par l'industrie cotonnière. Il n'y aurait pas de première puissance mondiale aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les millions d'esclaves qui ont donné au Sud sa prospérité économique. Je vous rappelle que les 12 premiers présidents des États-Unis étaient propriétaires d'esclaves, que ce n'est pas un hasard. Que par ailleurs, les plus patriotes des Américains, ce sont les Noirs américains. Moi, je suis, en tant qu'historienne, absolument sidérée, chaque jour que je lis, de voir à quel point, depuis 3 siècles, qu'on leur dénie la citoyenneté et l'égalité, ce sont eux qui rappellent en permanence à l'Amérique ce qu'il y a dans la Constitution des États-Unis, qui rappellent à l'Amérique qu'ils se sont battus pendant toutes les guerres, qu'ils ont porté l'uniforme et qu'ils ont droit à cette citoyenneté qu'on leur a promise. Je pense qu'il est légitime de vouloir repartir en Afrique, et pourtant la majorité sont restés avec l'idée « nous sommes Américains, nous avons construit ce pays, nous avons été jusqu'à construire la Maison Blanche », c'est pour vous dire. Donc, ce n'est pas la question de l'intégration. Ils n'ont pas à s'intégrer. Ils sont américains. Le problème, c'est quel est le sens que l'on donne à la citoyenneté. Et le problème, c'est que les États-Unis sont fondés sur la suprématie blanche. Et que les États-Unis sont très confortables avec l'idée qu'il y a une inégalité raciale pour laquelle on se raconte des histoires. Que les Noirs sont criminels, que les Noirs ne travaillent pas bien à l'école, que c'est malheureux qu'ils soient si nombreux en prison, mais que ce n'est pas de faute, ils dealent de la drogue, etc., etc., que les policiers ne sont pas racistes. Le mois dernier, une étude a été publiée aux États-Unis par le Pew Research Center, qui est le grand centre d'analyse statistique aux États-Unis, sur le point de vue des policiers blancs. Ça vous fait froid dans le dos. 75% des policiers blancs aux États-Unis considèrent qu'il n'y a pas de problème racial aux États-Unis. Le problème, qu'il n'y a pas d'injustice raciale. La majorité des gens aux États-Unis considèrent que si les policiers blancs se comportent mal vis-à-vis des Noirs, c'est parce que les Noirs l'ont cherché. Si vous voulez, avec ce genre de mentalité, la question de savoir si les Noirs veulent l'intégration ou pas, c'est un peu compliqué quand même. Ils ne veulent pas l'intégration, ils veulent qu'on arrête de leur raconter que s'ils sont 13% de la population et 40% des prisonniers, c'est qu'il y a peut-être un petit problème de racisme au milieu. Voilà. Ils aimeraient bien qu'on arrête de leur raconter que l'élection de Donald Trump n'a rien à voir avec la question d'un double mandat d'un président noir et du revanchisme des Blancs. Autrement dit, qu'on arrête de leur raconter la bonne aventure. Donc ils veulent la vérité et la citoyenneté. Et ça va avec votre deuxième question, qui est la question de l'ascension au pouvoir économique. Et tant qu'il y aura une telle discrimination à l'école et à l'emploi, la question de l'ascension économique restera un problème. C'est pour ça qu'il est très intéressant de savoir que les dernières années de Martin Luther King ont été consacrées à la question de la redistribution des richesses et qu'il voulait un grand plan de redistribution fondé sur l'imposition des plus riches et sur le fait qu'on investisse dans les services publics pour permettre aux Noirs d'avoir enfin l'émancipation. Et votre dernier point, est-ce qu'il y a une possibilité de recours à la violence aux États-Unis, chez les Noirs américains? Écoutez, j'ai envie de vous dire que ce qui est le plus stupéfiant, c'est ce que Martin Luther King répondait lorsqu'il faisait 15 manifestations non violentes face à la police qui les tabassait, qui envoyait les chiens, qui leur donnait des coups de gourdin. Et puis il y avait un Noir en queue de cortège qui avait le malheur de répondre et de lever la main. Et on allait voir Martin Luther King en lui disant « Ah, mais c'est la violence chez les vôtres, qu'est-ce qui se passe, vous êtes violent ?» Et Martin Luther King répondait « Vous savez, le plus grand miracle de l'histoire américaine, c'est que ça fait 250 ans que vous nous traitez comme ça et qu'on n'est toujours pas violent. » Et c'est vrai, les Noirs n'ont jamais été violents. Pour 1, 2, 3, 10, 15 révoltes d'esclaves, vous avez des décennies et des décennies de Noirs qui combattent devant les tribunaux, devant la justice, qui essayent de se faire élire, qui deviennent instituteurs, professeurs, qui essayent de devenir des Américains encore plus respectables que les autres, champions de tennis, champions de golf, enfin tout y passe, et pourtant ils sont toujours face à la même discrimination. Donc je crois, à en voir par exemple des mouvements auxquels je me suis beaucoup intéressée, comme le mouvement Black Lives Matter, que tout en se réclamant de l'héritage de Malcolm X, de Martin Luther King, des Black Panthers, du Black Power, ce sont d'une part des femmes et d'autre part des gens qui ont pensé l'émancipation et la révolte par l'action non violente, par la désobéissance civile et par la résistance, mais par l'exercice de leur citoyenneté. Et donc c'est peut-être d'une certaine façon cette idée qui prévaut, c'est-à-dire que l'ultime preuve de l'extraordinaire dévotion démocratique des Noirs américains, c'est que pour un Noir qui, à Dallas, l'année dernière, a tué 5 policiers blancs, entre nous soit dit, c'était un ancien soldat qui revenait au nom du drapeau américain d'avoir sans doute vu des choses absolument atroces en Irak. Mais enfin, je referme la parenthèse. Pour un Noir qui a tué 5 policiers, vous avez depuis 5 ans à peu près 1000 jeunes Noirs désarmés qui sont tués par la police blanche chaque année, qui ne sont jamais jugés. Et vous n'avez pas eu une révolte, vous avez des manifestations non violentes tous les jours aux États-Unis, de gens qui protestent dans la rue, qui parfois jettent une bouteille ou un caillou, mais c'est quand même extraordinairement non violent. Donc de ce point de vue, je crois que la réponse parle d'elle-même.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre intervention. Je voulais vous poser deux questions. La première, ce serait de dire quelle est aujourd'hui la relation qu'entretient la Nation of Islam avec l'héritage de Malcolm X, notamment via Louis Farrakhan, qui est aujourd'hui le président de la Nation of Islam. Et la deuxième question, c'est est-ce que Malcolm X s'est un jour expliqué sur ce qui reste quand même une erreur dans son parcours, c'est-à-dire cette rencontre avec Rockwell, qui était le chef du parti des Ku Klux Klan à l'époque. Merci.
Alors Rockwell, plus exactement, c'est le chef du parti nazi. Non, il n'en a jamais parlé, mais on peut comprendre, dans la logique que j'ai tenté d'expliquer, qui était le fait de considérer que, bah, finalement, puisqu'ils étaient, les deux groupes étaient d'accord pour une séparation stricte et radicale des races, eh bien, on pouvait finalement s'entendre avec eux, puisque leur ennemi commun, c'était la démocratie hypocrite. Alors, il y a un point psychologique intéressant qui est cette espèce de haine, de l'hybridité, de la créolisation et du métissage. Ça vient aussi chez Malcolm X de sa propre histoire. Son grand-père était blanc. Il avait lui-même la peau très claire. Et comme souvent dans des sociétés marquées par le colorisme et par le viol des femmes noires par les maîtres blancs, il y a une haine du blanc en soi. Il y a une haine d'être le fruit d'un viol, d'avoir du sang blanc en soi. Et donc je pense qu'il y a une espèce de haine anthropologique de Malcolm X pendant toute une période de sa vie pour cette idée de mélanger les races entre elles parce que pour lui c'était synonyme de violence et de crime. Et quant à votre première question sur Louis Farrakhan, alors c'est intéressant comme question, puisque Farrakhan fait partie de ceux qui ont été soupçonnés d'avoir commandité l'assassinat de Malcolm X. Il y a plusieurs thèses, je ne vais pas me prononcer sur la question. Le petit problème de Farrakhan, c'est qu'il a réussi à la fois à faire survivre la Nation of Islam, notamment autour de la Millions Men's March, qu'il a faite dans les années 90, où en effet, il a réussi à ressusciter cette idée que les hommes noirs pouvaient avoir une forme de fierté à manifester à Washington, et ça a été un succès. Et en même temps, avec des histoires toujours très compliquées d'antisémitisme, de liens douteux avec le monde des affaires. Donc aujourd'hui, la Nation of Islam est dans une position assez compliquée, mais en tout cas, elle est dans une position loyaliste vis-à-vis d'Elijah Muhammad. Et donc, autant Malcolm X est devenu un héros de la culture populaire, autant pour ce qui est des membres de la Nation of Islam, eux, ils continuent à se réclamer de la ligne légaliste de Elijah Muhammad. Et donc, Louis Farrakhan est une personnalité qui est très ambiguë dans son rapport à Malcolm X. Peut-être une toute dernière question pour la jeune femme tout au bout, et puis après on va devoir malheureusement rendre la salle.
Bonsoir et merci pour votre intervention. Donc j'avais une question qui était plus liée au spirituel, parce qu'on voit que dans les organisations qu'a intégré Malcolm X, comme The Nation of Islam et ensuite The Muslim Mosque Inc., on a toujours cette notion-là d'islam qui ressort. Finalement, est-ce que dans son discours, elle était aussi présente? Est-ce que cette philosophie-là, islamiste, était aussi présente? Et est-ce que pour vraiment être adhérent de ces idées-là à 100%, est-ce qu'il fallait être non seulement noir, mais aussi musulman?
En fait, l'aspect religieux est assez secondaire par rapport à l'aspect politique. C'est-à-dire que... Il insistait moins, par exemple, sur le rituel des cinq prières par jour ou sur le fait de respecter les piliers, de faire le pèlerinage, des choses comme ça, que sur l'idée que l'islam, en tant que religion non blanche, était une solution par rapport à un christianisme qui restait la religion de l'homme blanc. Que, vous savez, les Noirs américains sont très chrétiens. Pour la plupart, surtout s'ils viennent du Sud, ils sont très pratiquants. Et pour Malcolm X, c'était insupportable. Lui-même était fils de pasteur, hein, donc il avait, comme James Baldwin d'ailleurs, hein, oui, comme Martin Luther King. C'était très insupportable pour lui d'avoir l'idée que les Noirs allaient à ce point à l'église, qu'ils chantaient, qu'ils étaient exaltés, qu'ils parlaient de Jésus du matin au soir, alors que pour lui, c'était la religion des Blancs, la religion que les Blancs avaient imposée aux Noirs. Et donc, c'était une arme de subjugation, le christianisme. Et donc, pour lui, l'islam, c'est à la fois la religion de la subversion, celle des peuples de couleur, et en même temps dans la mythologie c'est une religion qui a été aussi créée par un noir, même si c'est un noir asiatique c'est quand même intéressant, et d'autre part c'était l'espèce de pont entre les noirs américains et les peuples opprimés du monde, avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc l'idée de la spiritualité, ce qu'il retient de l'islam surtout, c'est l'idée de la discipline. ne pas fumer, ne pas manger de porc, ne pas insulter, ne pas dire de vulgarité, respecter la hiérarchie. Pour les femmes, ça voulait dire être soumise, être des épouses fidèles. Et donc cette idée de discipline, cette idée que le noir pouvait se réformer par une forme de discipline extrêmement rigoriste. Mais pour le reste, l'islam n'est pensé que comme, si vous voulez, pensée religieuse accolée à la pensée politique du nationalisme noir. Voilà, ça n'est pas une religion qui donne l'idée qu'on ne fait pas de politique. C'est plus une éthique et un dogme de vie qui permet d'avoir une forme de rigueur et de dignité et d'alternative par rapport à une société blanche, corrompue, hypocrite, voilà. C'est plus dans ce rapport-là. J'espère que je réponds à peu près à votre question.